Salut, c'est Laurent Bertin et tu écoutes Atypique où nous explorons les parcours uniques de celles et ceux qui ont transformé leur vie pour devenir accompagnants. J'explore avec eux leur évolution, leur motivation, leur vision du monde et du changement, les obstacles surmontés et ceux encore à affronter pour qu'on puisse tous s'enrichir de ces échanges. Dans cet épisode 1 des Atypiques, nous plongeons dans la vie et la carrière d'Anna Gallet, une coach, formatrice et praticienne en hypnose chevronnée. Anna partage son parcours personnel depuis ses luttes initiales avec l'estime de soi et la colère jusqu'à son évolution en tant que coach et podcasteuse à succès. Elle discute des défis que représente le fait d'être entrepreneuse dans le domaine du coaching, de l'importance de se connecter à la réalité et de l'engagement à long terme nécessaire pour avoir un véritable impact. Anna s'ouvre également sur sa passion pour le féminisme et sur les difficultés qu'elle rencontre pour exprimer ses opinions sur les médias sociaux. Tout au long de l'épisode, nous explorons les nuances de la réussite, la joie d'apprendre et l'importance de rester fidèle à soi-même. Découvrez le parcours atypique d'une coach qui n'a pas peur d'embrasser le changement et d'affronter les complexités de la croissance personnelle et professionnelle. Salut Anna, ça me fait plaisir de t'avoir. Tu es la première sur le podcast des Atypiques.
C'est un honneur.
Tu te présentes rapidement, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, pourquoi tu es là.
Anna Gallet, je vais pas tout faire. Anna Gallet, coach, praticienne en hypnose, formatrice. Voilà, 34 ans depuis un mois et je vis à Saint-Étienne.
Un podcast.
J'ai un podcast, oui, c'est vrai, depuis 3 ans, là, Hypnose et compagnie, qui change de nom à peu près toutes les années.
Oui, j'ai vu ça.
En même temps que moi, je change, en fait. Donc, donc voilà, je ne suis pas quelqu'un de très stable. J'aime bien le mouvement, j'aime bien changer, donc
voilà. Oui, moi, je suis un peu pareil aussi, ça me change tous les 6 mois, moi, mais bon. Je pense que ça fait partie du métier aussi, donc on en parlera peut-être un peu. Mais, donc, tu avais un podcast appelé Oser se lancer au départ, et puis maintenant, c'est Hypnose et compagnie.
C'est ça.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je le mettrai en lien dans la description du podcast. On va commencer par des trucs un peu rigolos. C'est quel est le meilleur compliment que tu as reçu?
Putain. Alors, le meilleur compliment que j'ai reçu, c'est quelqu'un qui nous a envoyé, là, je pense au récemment, qui nous a envoyé, on avait fait un calendrier de l'Avent et on avait mis dedans l'interview de Jean Dupré avec François sur le deuil. Et cette personne nous a envoyé un long mail pour nous dire à quel point ça l'avait aidé dans sa relation avec sa fille qui était handicapée, dans le deuil qu'elle avait à faire de la personne valide qu'elle aurait dû être, etc. Et c'était un mail qui était vraiment hyper émouvant. Et je le garde précieusement parce que c'est les trucs qui font que tu continues, en fait. C'est con à dire, ça fait bateau, mais il y a tant de fois où on a envie d'arrêter que les petits trucs comme ça, c'est des compliments de fou, quoi. En disant, ça m'a aidé.
Ouais.
Ouais. Donc,
non, ça me parle, c'est pareil, c'est les... Les merci, les vrais merci, tu sais, qui viennent du fond, là, du fond du cœur, tout. C'est pas forcément que les gens ont changé, sont transformés, genre, salut, je fais une séance d'hypnose et tout, mais un truc qui a changé de perspective, qui permet de. Souvent, c'est plus de l'acceptation, moi, qui va me toucher, les gens qui disent, putain, j'ai compris un truc, ça m'aide à, plutôt que le changement rapide, ce genre de choses-là. Et pour moi, c'est un peu pareil, c'est ce qui fait que je continue, en fait, c'est pour les merci.
Pour la reconnaissance.
Ouais, mais c'est pas la reconnaissance, regardez, je suis connu, c'est la reconnaissance silencieuse. La reconnaissance silencieuse, tu vois, c'est les mails, les petits messages, les trucs qui passent de temps en temps. Alors que des fois, on partage sur le site pour l'autorité, etc. Mais c'est...
important.
Moi, je pense c'est bien poser cette question parce que ça permet de voir aussi pourquoi, comme tu dis, on continue. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Ce métier-là. Et une autre petite question rigolote, qu'est-ce que les gens seraient surpris de savoir sur toi?
Si tu sais que j'avais pensé à cette question, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de... Moi, je me trouve pas surprenante. Chose que les gens connaissent pas trop, ça va être... En fait, ma vie privée, finalement, je pense que je l'expose pas beaucoup. Hormis que je suis mariée avec François, vu qu'il est hypno. Je fais du piano depuis que j'ai 5 ans. Donc, je joue plutôt bien du piano. J'ai un côté un peu artistique, donc je dessine beaucoup, je peins, enfin voilà, des trucs comme ça, que je montre pas, ça, pour le coup. Donc ça peut être...
Rien. Bon,
non, du tout.
On se connaît pas mal et je savais pas.
Non, du tout. C'est ouais. Mais ça me sert beaucoup dans la formation, tu vois. Par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est les mind maps et tout, mais la facilitation graphique, avec des petits bonhommes, des trucs comme ça, pour former, pour apprendre aux gens, je trouve ça génial, moi, tout ce qui est un peu créatif dans la formation.
Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu le partages pas plus que ça?
je pense que c'est pas intéressant pour les gens et que j'y pense pas. Et je me trouvant très nulle dans ces domaines, même si ça fait vraiment longtemps que je joue, par exemple, du piano. La première fois que j'ai joué devant quelqu'un, c'était il y a 3 ans, quoi.
Oui.
Donc, à part ma grand-mère qui m'a mis au piano et qui pleure à chaque fois que je joue. Mais sinon, j'ai vraiment du mal à jouer. En fait, je commence à trembler. Un de mes challenges de vie, c'est de jouer un jour dans une gare sans partition. Parce que dès que j'ai plus de partition devant moi, je panique.
Et comme dans les vidéos là, qu'on voit les...
Voilà, dans les fausses vidéos où tout est bien organisé pour que tu aies l'autre influenceur qui vienne chanter en même temps que celui qui joue.
Mais il y a 45 caméras professionnelles qui sont...
C'est magnifique, incroyable. Mais ouais, ça, je me dis, le jour où j'arrive à faire ça, j'aurais passé un truc parce que j'ai tellement peur du regard des autres depuis des années. Ça va de mieux en mieux, mais si j'ai fait Oser Sensé, c'est pas pour rien, quoi. Parce que moi-même, oui. J'étais planqué depuis des années sur les groupes, sur plein de trucs, quoi.
Qu'est-ce qui t'a aidé? Parce que tu te montres, tu fais
podcast, qui m'a aidé trucs. En fait, ce qui m'a aidé, c'est le Covid.
Ouais.
C'est le Covid, c'est con, mais c'est là que j'ai rencontré Julien. Et Julien qui m'a parlé de toi, de Hypnocian, de tout ça, des groupes et tout. Et moi, je regardais, mais très loin, en fait. Donc, parce que j'étais formatrice pour une boîte. Et j'avais pas le temps vraiment de d'être sur les forums à fond entre le cabinet et l'information. Et Covid, donc j'ai commencé à m'intéresser aux forums, aux trucs, à rencontrer des gens et à regarder des trucs en live. Et petit à petit, moi, de toute façon, j'avais comme objectif à un moment de devenir nomade digital. C'est très à la mode.
Mmh.
Et j'avais très envie, et j'ai toujours très envie de voyager et de pouvoir bosser de partout. Et donc j'ai tout fait pour tout passer en ligne à partir de ce moment-là en me disant... Le truc de formation dans la boîte, c'était top, mais je savais que niveau valeur avec le dirigeant, on allait à un moment avoir un problème, qu'on a eu, en novembre après. Donc il fallait que moi, je puisse faire mes formations en présentiel et en ligne assez rapidement. Quoi. En plus du CAP, parce que moi, faire que du CAP, je n'ai jamais été capable de le faire, en fait.
Ouais, et comment tu as dépassé ce truc, justement, de te montrer un peu plus
C'était des challenges. C'était Julien qui me disait, vas-y, cette fois, allume ta caméra. C'est con, mais c'est sur l'écovision. Il me disait, allume ta caméra cette fois. On parlait en message.
Ouais.
Et en fait, petit à petit, d'allumer, puis en plus, le podcast, c'était bien parce qu'il n'y a que ma voix. Et en plus, j'avais que des interviews au début.
Ouais.
Donc, je pouvais commencer à me montrer, mais tout en n'étant pas du tout le centre de l'attention. Et en fait, ça continue comme ça parce que c'est toujours aussi dur pour moi de faire des podcasts seul. Donc, je suis présente plus, mais j'écris. Je fais pas de vidéo, enfin tu vois. Je reste quand même un peu dans ma grotte, quoi. Je me suis arrangé pour avoir une visibilité qui me va.
Non, mais ça me parle parce que j'ai un peu
le même profil.
Le même parcours, ouais, le même profil. Les gens souvent ils me disent, putain, mais tu te montes, tu fais des trucs, t'as confiance en toi. Non, mais les gens, je pense qu'ils réalisent pas. Moi, j'ai commencé à écrire sur Hypnocian. Un peu comme toi, je pense que ce qui est bien, c'est. Quand on a une vision, une direction qui est forte, comme toi, tu voulais être nomade digital, moi aussi, je veux pouvoir travailler de partout dans le monde, être libre de pas être attaché à une entreprise, à un lieu, etc. Donc ça, c'est... Et puis, l'envie de former, de transmettre. Mais pour moi, le gros challenge, c'est se montrer, quoi. Sur scène, pour moi, c'est infernal. La vidéo, les gens se rendent pas compte, mais si les gens qui ont l'historique des co-visions, je crois que j'ai commencé à faire de la vidéo au bout de 4 ans, avant, c'était qu'en audio. Je commençais par le podcast, comme toi, par l'écriture. Mais je pense que c'est bien, justement, d'aller là où c'est pas trop difficile. Parce que des fois, dans les coachings, tu dois en avoir aussi, où les gens, ils disent, ouais, il faut que je fasse des réseaux sociaux, des vidéos, des trucs comme ça. Ouais, il faut trouver le truc qui te fait peur, mais pas trop, quoi. Parce que sinon, ça peut...
Bah, c'est l'enfer. Enfin, moi, ça me fige, en fait. C'est pas... Tu m'aurais dit, commence à faire des podcasts en vidéo, j'aurais pas pu, en fait. Et c'est long, le rythme est long, je trouve. Tu vois, 3 ans pour commencer à faire vraiment plus de podcast solo, c'est long, mais bon, après, c'est comme ça, quoi.
Pardon. Ouais, pas assez. Ouais, puis les podcasts solo, t'es tout seul. Pas... Enfin,
c'est difficile. C'est logique, ouais. Mais c'est difficile de mettre sa pensée et de se dire, putain, mais il y a tellement de gens qui vont pas être d'accord avec ça, ils vont me défoncer.
Ouais.
Mais je crois que t'as raison, les gens se rendent pas compte du travail que ça nous demande et de ce que ça force chez nous, des fois, de faire des choses... qu'on fait parce pour notre business, clairement, mais aussi pour les gens. Il y a plein de trucs qu'on n'est pas obligé de faire, qu'on fait en gratuit, qu'on n'a pas besoin de faire en soi pour gagner de l'argent. Et ce qu'on disait au début, les merci, etc. Moi, je trouve, je vais faire la meuf qui se plaint, mais que c'est de plus en plus rare. Tu vois, les gens qui partagent, qui remercient, machin. On est devenu dans un truc un peu où c'est normal d'avoir du contenu de qualité gratos. Et je suis pas sûre que ce soit la norme. On a beaucoup de qualité de contenu de merde aussi, donc.
Bah, c'est les effets d'Internet, c'est un peu le.
C'est ça.
La surconsommation, le rapide, les gens ils veulent du tout de suite. Et très bon et excellent, enfin tu vois, c'est.
Ça.
Après, c'est aussi les gourous du marketing et compagnie hein, qui disent tu fais de la pub. Enfin, des fois, je me dis j'aimerais bien être un gros con qui en a rien à foutre. Bon, je suis un gros con sur plein de contextes, mais. Dans ce contexte-là, je pense pas. Et d'abuser un peu des trucs. Des fois, je regardais des trucs sur les néo-spies, les guides spirituels, les trucs et machin. Je me dis, putain. Comme je lis plutôt bien les gens, moi, tu vois, c'est un côté un peu clairvoyant. Je vois les gens, je les lis assez bien. Je me dis, putain, je me serais mis là-dedans sans. On va dire sans les valeurs de honnêteté, intégrité, enfin, tout ce que tu veux qui vont avec. Je pense que pas des millions.
Hein mais on se le dit avec François, on dit putain, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas médium, tu vois.
Je parlais de ça avec Jean-Pierre l'autre jour, Jean-Pierre Chaudeau pour ceux qui connaissent, et on se disait putain, mais en fait, on est du bon côté de la lumière, on a nos défauts, tout ça évidemment, bien sûr, mais je pense pas que ce soit. Et je pense que c'est un peu ce qui est marrant, ce qu'on aborde là, c'est un peu la cible un peu du podcast avec le nom atypique, tu vois, c'est un. Parce que moi, dans mes accompagnements et tout, j'ai que des gens un peu dans ce profil, qu'on se passe montrer, qu'on peur, qu'on machin, qui se posent un milliard de questions, qui doutent de tout. Je pense que c'est souvent ceux-là qui deviennent meilleurs au sens intégrité, etc. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres, ils ne se posent pas la question. Ils font 4 jours de formation, ils vendent des séances à 120 euros et ils roulent ma poule et ils vendent des trucs en ligne, ils ont zéro expérience. Tout est dans la com et le marketing. Comme ça.
Mais quelque part, ils m'impressionnent, moi, ces gens. Vraiment, là, je me dis, mais comment t'arrives à... François, il a ce côté-là de pouvoir être sur scène, de kiffer ça en plus, d'adorer être le centre de l'attention, faire rire et tout. Moi, je suis devant, je dis, putain. L'autre, il a 3 tours de cartes dans sa manche et il peut dire, c'est bon, je fais un peu de magie, tu vois. Moi, il faudrait que j'ai 25 tours de cartes derrière moi, 10 ans d'expérience pour que je dise, c'est bon, je suis un peu de magie.
Oui, moi, c'est pareil. J'ai regardé 250 000 vidéos.
Oui, voilà, YouTube, c'est ça.
Lu 350 bouquins, me suis entraîné pendant 3 jours, enfin 3 ans non-stop. Commencer gratuitement et peut-être faire payer un jour. Et puis peut-être, dans 20 ans, monter sur scène devant 5 personnes.
On n'a pas les mêmes temporalités.
Non. Ouais, moi aussi, j'admire ça. Mais c'est vrai que, après, ces gens-là, ils ont d'autres défauts. Et donc, c'est pas mal de se compléter. Mais voilà, c'est important d'en parler parce que souvent, moi, les gens, ils me voient quand je fais un stage, trucs comme ça, plutôt à l'aise parce que je connais mon contenu et ça va. Mais ça me demande, je fais 2 jours de stage, moi, je mets 3 jours à m'en remettre. Toi, parce que c'est fatigant, parce que ça me demande l'énergie, ça me sort complètement de ma zone habituelle. Comme je dis souvent, moi, si je pouvais gagner ma vie sans que jamais personne me voie et me connaisse, je le ferais. Bon, peut-être que la solution serait d'écrire des bouquins. Comme j'ai la flemme parce que je suis aussi feignant, je le fais pas. Et donc, et comme j'ai un niveau d'exigence très élevé, je me dis, je peux pas publier un truc. C'est comme les livres, tu vois, c'est pareil. Je me dis, j'en lis des bouquins, je me dis, ça tient à 3 phrases, le bouquin. Ça me saoule. Donc, j'ai pas envie de faire ça. Et donc, dans ma tête, il faut que chaque phrase soit utile. Et donc, forcément, les enjeux sont. Et donc, c'est pareil sur scène, dans le podcast, dans plein de trucs. Bref. Voilà.
Mais je pense qu'il y a. Tu sais, j'avais une nana qui parlait de ça, hein, québécoise, Geneviève Gauvin. Tu sais, il y a deux rôles, enfin, il y a deux facettes, quoi. Moi, j'ai vraiment un truc, quand je suis en formation, je suis pas du tout, entre guillemets, la même personne que quand je suis derrière mon ordi, flippée avant de faire un live, tu vois.
Oui.
Et à un moment, il y a une espèce de rôle casquette qui arrive, et c'est plus facile. Mais c'est pas la même personne, enfin, c'est deux parties différentes, on va dire.
Ouais, moi, ce qu'ils mettent, c'est l'interaction. En fait, dans ma tête, je suis pas là pour moi. Je suis là pour les gens qui sont là, donc pour ça que sur mes stages, ils s'adaptent un peu au groupe, etc. Mais l'interaction m'aide à libérer ce côté où je suis tout seul. Bon. Si jamais vous êtes au même endroit, dites-vous que un petit peu d'effort chaque jour pour ceux qui nous écoutent, ça aide. Mais je crois pas que ce soit. Je dérive un peu des thèmes, mais je pense que c'est un truc qui peut changer. Parce que souvent, moi, une fois, on m'avait dit, ouais, il faudrait que tu travailles sur toi, sur ça, etc. Mais je donne un petit peu mon avis en avance, mais parce qu'il y a plein de bons côtés là-dedans, et donc c'est un peu, je travaille dessus, est-ce que tu le perds? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu penses que ça peut changer? Et tu peux devenir un jour Anna qui kiffe être sur scène devant 500 personnes, tu vois?
Non, je pense pas. Je pense pas. Déjà, je n'ai pas envie que ça change, en fait. Ça me demanderait trop d'efforts. Qui serait pour un truc que je pense que je kiffe pas. En plus, j'ai fait des spectacles d'hypnose, machin, j'ai jamais kiffé, en fait. J'en ai fait 3-4. Les 3-4, ça a été un enfer à faire. Même pendant, ça a été horrible. Et tu disais les bons côtés, c'est que moi, ça me fait bosser de ouf, en fait.
Oui.
Je pense que dès que je fais un atelier, un machin, il y a tout, je réfléchis à la pédagogie comme une timbrée, enfin, une formation, c'est pareil. Je bosse énormément pour avoir un contenu que je trouve valide et qui est encore à 5 sur 10, quoi, on en parlait hier avec François. Et mais toi, tu t'estimes à combien en pédagogie? Je me disais, bah, avant, quand je formais en présentiel, j'étais à 2. Et puis là, je suis à 5, mais en digital. Moi, je pense pas que ça changera chez moi. Enfin, je vois pas comment. Je pense que ça fait partie de moi. Je suis quelqu'un qui aime être dans sa grotte, j'aime être toute seule, j'ai besoin de moments seuls. Dès que je vois trop de monde, hier on était à un spectacle d'Olicard, dans un zénith, c'est bon, moi, ça m'a suffi, quoi. 1h30 avec 1000 personnes autour, je ressors, je suis éreintée. Donc ouais, il faut que je retourne dans ma grotte et que je reprenne du temps juste pour moi, quoi. Donc non, ça changera pas. Et je pense qu'on peut quand même, entre guillemets, réussir, si on va définir réussir, mais je pense qu'on peut quand même faire ce qu'on a envie de faire. Mais il faut trouver le bon moyen. Et tu disais tout à l'heure, les gens qui aiment pas les réseaux sociaux, faites pas de réseaux sociaux, quoi. Enfin, il y a tellement d'autres choses à faire pour se faire connaître que des réseaux sociaux, surtout vu la gueule des réseaux sociaux actuellement. Parce qu'il y a... faut trouver les trucs qui nous vont. Moi, ça me va bien d'être caché derrière mon écran, caché derrière un podcast. Voilà. J'aime bien ne pas être le centre de l'attention. Et voilà, c'est comme ça. Je sais pas si j'ai répondu à la question.
Oui, super. Et aujourd'hui, tu dis que tu penses que ça change pas, mais est-ce que tu as essayé de le changer?
Oui.
Avant?
Ah bah oui. Ça fait... Moi, j'ai commencé la PNL et psycho, et les études de psycho, donc quand j'avais 20 ans. J'ai commencé parce que j'allais pas bien du tout, en fait. J'étais hyper colérique, je faisais du mal, j'étais violente envers les autres, envers moi, enfin, j'allais pas bien du tout, et j'avais besoin de me mettre en sécurité. Donc, dans psycho, je me suis dit, si tu fais psycho, tu vas réussir à comprendre les gens et à te mettre en sécurité. Alors, pas du tout, hein. En tout cas, pas la fac de Lyon 2, psychanalytique, n'a pas du tout marché, mais en même temps, j'ai commencé la PNL, et ma mère était maître prat de PNL, donc j'en entendais parler depuis un moment. Et ça m'a aidé. Alors, entre guillemets, maintenant, j'ai du plus de recul, donc ça m'a aidé dans le sens où j'ai plus enfermé la colère que traité. Mais j'ai le nombre de fois où j'ai travaillé avec des coachs, avec des psychos, machin, sur l'estime de soi, la confiance en soi, plus se montrer, être plus sûr, arrêter de trembler dès qu'il y a un truc, d'avoir peur de tout, ça change pas. Hein. Mais ça fait, depuis que j'ai 20 ans que je bosse dessus, donc 14 ans.
T'es ma sœur jumelle, en fait. L'autre fois, je sais pas, je me suis pris la tête pour un truc à la con. Quelqu'un m'a pris la tête au supermarché, je sais plus où c'était, et j'étais comme ça après. C'est la même chose que sur scène. Bref.
C'est ça. Mais, tremblant. Tremblant de l'émotion qui était là. Tu vois.
Ouais, donc t'as un peu répondu à la question que j'allais poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es levé un jour, le matin, en disant tiens, je vais faire psycho, je vais faire de l'hypnose, faire de la thérapie, je vais en faire mon métier.
Bah, moi, j'étais partie pour faire coach. Enfin, mon métier, vraiment, c'est coach, c'est pas hypno. Et je faisais psycho pour, comme je t'ai dit, pour avoir une base psycho et surtout en flip, en cas où le métier de coach soit encadré.
Oui.
Donc, j'avais prévu ça déjà à ce moment-là. J'avais mis un bon temps. J'avais erré de médecine en biologie, en GACO, avant d'arriver à psycho. J'avais la flemme d'aller à Lyon. Et en fait, les études psychanalytiques, ça m'a saoulé à fond, quoi. J'ai tenu jusqu'au Master 1, et après le premier Master 1, j'ai fait un stage en psychiatrie. Ce stage, je me suis dit, putain, mais en fait, on sert à rien en tant que psycho. Alors que c'est pas vrai, il y a plein de psychos super, mais en psychiatrie, c'est très particulier. Déjà, il y avait un psycho qui était là que 2 jours par semaine. Enfin, c'était un service très particulier. Et en même temps, j'étais dans la PNL, donc vraiment déchiré entre deux façons de voir les choses et l'humain. Très différente, donc j'ai dit, c'est une demi-heure décision de ma vie d'ailleurs d'avoir arrêté psycho. Même si j'ai réessayé d'y rentrer l'année dernière, un échec. Mais à ce moment-là, j'ai arrêté et puis je suis allée à fond dans le coaching. Et parce que j'avais besoin d'aller mieux, surtout, moi. Mmh. Et en même temps, j'aidais les autres, donc c'était cool, quoi. Mais c'était très égoïste au départ.
Ouais, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, quoi.
Ouais. Oui. Je voyais pas quoi faire d'autre. Et j'ai
souvent, les gens ils disent oui, moi je veux aider les gens, je veux changer le monde. Ah, non. Et je pense que c'est important d'aller voir justement. Et des fois, c'est moche. Hein. Enfin, on peut.
Ah bah moi, c'est pas. Je suis pas fière de dire. C'est complètement égoïste de d'être une meuf qui allait pas du tout bien et qui avait envie d'aller bien, quoi.
Mm-hmm.
Et qui en a fait un métier pour aider les autres. Mais tu vois, j'ai pas ce truc d'être portée par ce métier. J'en ouais. parlais des fois avec Pank où il me disait mais moi je comprends pas, enfin tu vois, je lui disais moi ça m'ennuie, au bout d'un moment je vois 4 personnes dans la journée, déjà je suis morte en termes d'énergie, 4 c'est bon, c'est mon maximum, bonne journée, bonne nuit, et en plus ça me saoule, c'est que je suis pas assez intéressée par exemple l'hypnose, je suis pas une passionnée de l'hypnose comme d'autres peuvent l'être, ils connaissent toute l'histoire, moi ça me saoule en fait, c'est... Ouais, j'aime beaucoup ça, mais je pourrais être une passionnée de pédagogie pour le coup, parce que vraiment ça, je trouve ça extraordinaire. Mais c'est pas un truc qui me porte, tu sais, tout le monde cherche la mission de vie, ta vision, machin. Moi, j'ai jamais trouvé. J'ai jamais dit, putain, il faut que je fasse un podcast pour aider les autres, tu vois. C'est pas un truc qui me porte le jour où j'arrête, quoi. Donc, et c'est stressant de devoir trouver une mission de vie alors que ça se trouve déjà, il y en a pas.
Moi, je pense que c'est une légende urbaine, la mission de vie, mais...
Ouais. Mais on te fait travailler là-dessus, surtout en fait, tous les coachings, même marketing, on te fait travailler ta vision, mission, projet de vie à 5 ans. Moi, je me rappelle un truc de Collignon, on avait fait à 10 ans. Putain, mais à 10 ans, ma vision, hein, qu'est-ce que j'en sais? Je sais déjà pas ce que je fais dans 3 jours.
Après, moi, je fais la vision à 5 ans, parce que je pense que c'est important, parce que ça donne une direction, pas parce que ça donne une mission. Mais pas en. Et le problème, c'est que souvent, les gens, ils le font, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais pas ce que tu vas faire.
Oui, voilà.
Parce que ce que j'aime bien faire, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est le mode de vie. C'est, tu sais que tu veux être nomade digital. Ok, dans 5 ans, je suis nomade digital, je voyage, je peux travailler de partout, je travaille 4 heures par semaine, Tim Ferriss, semaine de 4 heures. C'est ça, là, pour moi, la mission de vie, c'est ça reconnecte les gens à ce qu'ils doivent faire, sauf que déjà, en plus, on est très mauvais à se futuriser, c'est une catastrophe. Et donc, c'est un biais cognitif, on a tendance à penser qu'on va pas changer dans le futur. Donc, on emmène toutes ces limites dans le truc. Alors, quand on pense en termes de mode de vie, comme t'as fait toi, est-ce qui t'a permis de... T'as permis pendant le Covid de bouger, de sortir de tes peurs et tout. Parce que, moi, pareil, hein, c'est ce qui fait que je suis parti de la banque, parti de l'Arche, etc. Donc, c'est ce truc de je vais pouvoir être peinard, travailler 2-3 heures par jour, et merci, salut, quoi. Et donc, mais c'est ça, là. Mais la mission de vie, je pense, tu fais bien d'en parler, je pense que c'est plus un fléau qui pose plein de problèmes aux gens qu'un truc utile.
Puis ça amène des biais de.
C'est hyper égotique.
Ouais, déjà. C'est hyper égotique. En plus, c'est forcément des trucs tournés vers l'autre, tu sais. Donc là, tu vas aider l'autre dans ta grande mansuétude, machin. Mais en plus, ça amène des trucs très bien particuliers. En tout cas, moi, pour les débutants, là, donc je vois depuis, depuis que je commençais à former, c'était il y a 6 ans. Et il y a toujours ce truc de maintenant, j'ai trouvé ma place. Je suis à ma place, donc les choses vont se faire. Tu vois, espèce de spiritualité à la con, là. Et les choses se font pas, et les gens sont étonnés. Tu vois, après, mais je comprends pas. Pourtant, maintenant, je fais un truc dans l'humain, j'ai trouvé ma place, ça va mieux, mais j'ai pas de clients. Ah ben, c'est parce que c'est pas le. Ça n'a rien à voir.
Bouger le cul pour avoir des clients.
Voilà, ça n'a rien à voir avec la place. Mais c'est ce qu'on vend, en fait, aussi.
Enfin, tu vois, du coup, c'est toujours un truc, moi, qui me. C'est très occidental et très bobo, bourgeois. Vous allez dire ça, mais c'est-à-dire, j'ai une mission de vie, attends. Et le. Petit Éthiopien qui meurt de faim, il n'a pas de mission de vie, peut-être, lui, tu vois. Et en fait, il y a toujours des trucs, quand tu les remets dans d'autres contextes.
Je pense que tu fais bien de l'aborder. Parce que... Moi, par exemple, je sais pas pourquoi, ça me vient, tu me diras si c'est hors sujet, mais le contexte dans lequel on est, moi, j'ai été dans une famille de bourgeoise. Donc, je suis hyper bien éduquée, je suis toujours partie en vacances, je fais de l'art, je fais du machin, du truc. Et j'ai pas d'enfant, ce qui m'aide énormément à faire aussi ce que j'ai envie. C'est facile pour moi de me dire, je vais être dans mon nomade digital dans 5 ans, tu vois. Déjà, parce que si je me plante, il y a ma famille derrière. Donc, et en plus, parce que j'ai pas d'autres personnes que moi qui comptent sur moi, à part un chien et un chat. Donc, le contexte aussi dans lequel on est va jouer énormément sur les trucs qu'on fait pour développer.
Oui.
En bien ou en mal, tu vois. Parce que ça pourrait booster aussi quelqu'un de se dire, bah moi, il va falloir que je paye le crédit, donc j'ai 3 mois pour tout éclater.
C'est ce que j'allais dire. Moi, je suis parti avec 4 enfants, ma femme a changé de travail aussi, et enfin, moi, je marche à la contrainte. En fait, si je suis tranquille, c'est un peu ce qu'on évoquait avant le podcast, mais. Et je pense que c'est vrai pour plein de gens, c'est que quand il y a trop de sécurité, bah tu es libre de vivre des trucs, des émotions, des machins, mais aussi de ne rien faire. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Et en fait, voilà, moi, si j'étais tout seul, j'aurais un canapé, un ordinateur. J'aurais besoin
des jeux.
Je vivrais au milieu de nulle part tant qu'il y a Internet. Et 1000 euros par mois, je serais content. Sauf que ouais, 4 gamins, 2 chiens, 3 chats, les gamins qui font les études et tout ça. Forcément, c'est pas les mêmes contraintes. Mais c'est un levier.
Mais ça booste aussi, ouais, ouais. Ouais, il a toujours fallu que je brûle les bateaux tous. Que je mette dans la merde, en fait, à chaque
ça
fois
booste,
pour développer.
Des fois, ça fait chier aussi.
Et des fois, ça fait chier, ouais. Ça fait chier. Mais on fonctionne tous différemment. Il y a des gens, la contrainte, ça va les figer. Ils ont besoin de sécurité, le nombre de personnes qui disent « Bon, bah finalement, je vais reprendre un boulot. » Bah, c'est bien. C'est cool.
Mmh. Ouais, bah, ma femme, elle est comme ça. Elle marche que... Elle a besoin de sécurité. Mmh. Tu la mets dans un cadre insécure, elle l'a peint dans les phares, quoi. C'est trop de stress.
Ouais.
J'avance un petit peu sur quelques questions que j'ai en stock. C'est... Comment tu définirais la réussite dans le domaine du coaching, de l'hypnose ?
Quelle horreur. Je sais pas. Est-ce que je fais une définition bateau qui fait ce qu'on fait ? J'en sais rien. J'ai aucune idée. Elle est tellement individuelle. Donc pour moi, la réussite, c'est m'amuser. Voilà. Si je m'amuse plus, si j'apprends plus, hein, à moi, m'amuser va avec apprendre. Mais là, par exemple, je me fais chier, tu vois, actuellement. Ça va qu'on est en train de développer une formation où vraiment on est en train de s'enflammer sur la pédagogie et tout, donc j'ai plein de trucs à réapprendre, de logiciels à découvrir, de machins, de trucs. Mais et si je m'amuse plus, c'est que j'ai merdé quelque part.
Ok.
Ouais, puis alors, réussite, c'est d'en vivre aussi. Si j'en vivais pas depuis X années, je pense que j'aurais eu l'impression d'échouer. Mais c'est dur, ce mot de réussite. T'as dit quoi ?
Ouais, c'est dur, c'est des questions qui sont pas faciles.
Non, mais c'est dur, ce mot de réussite, parce que j'ai pas l'impression d'avoir réussi, tu vois, quoi que ce soit. J'ai l'impression d'être tout le temps in process.
Ouais, mais c'est peut-être ça aussi. La question est large, justement, exprès, parce que c'est des questions qu'on entend beaucoup, que tu dois entendre aussi, les gens qui cherchent à réussir dans le métier d'indépendant, tout ça, mais ils se posent pas la question, qui est vachement dure à répondre. C'est comme, je parle dans ma conférence, c'est comment tu sais que t'es aimé? Alors que c'est des sujets qui nous drive, hein, qui nous animent, et je pense que c'est pas mal de se poser la question de savoir comment on définit sa propre réussite, puis la réussite en général, parce que beaucoup de gens qui ont un décalage sur le regard de la réussite, tu vois, et je pense que ça crée des comparaisons. Et ces comparaisons-là, elles posent pas de problème. Et en plus, avec ce qu'on évoquait au début, les gens sur les réseaux, sur Internet, tu ne vois que la surface. Bon, il y a plein de gens que je vois sur les réseaux que je connais bien. Il y a un décalage énorme entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent, tu vois, et eux, ils en parlent pas. Que c'est pas bon pour le business. Moi, je pense que c'est une erreur, peu importe. Et je pense que les gens, en général, c'est pas mal de se poser la question. Et ta réponse, elle me parle à mort, parce que c'est pareil, là, ça fait 2-3 ans que je me recherche un petit peu, même si j'ai une audience, machin, tout ça, je remplis des stages, il n'y a pas de problème. Mais je me fais chier, au sens où c'est pas que ce que je fais m'ennuie, c'est que je m'amuse plus. Tu vois. Et comme toi, c'est pour ça que je me marre, t'es ma soeur jumelle, mais... Là, je suis en train d'apprendre à faire du color grading dans des vidéos. Ça sert à que dalle, mais ça m'intéresse. Donc, j'explore DaVinci Resolve, qui est un logiciel de montage. Je pourrais faire une formation demain. Je connais tous les trucs de podcast, toute la technique. Je me dis, j'aurais dû faire une chaîne YouTube d'analyse de tech. Tu vois. Je connais tous les outils, tous les machins, site internet, j'ai tout exploré. Mais en fait, c'est pas que... Les gens diraient, c'est du perfectionnisme. Non, en fait, ça me fait marrer. Tu vois. Donc j'essaie de continuer d'apprendre des trucs. Et l'idée aussi un peu du podcast, de créer des échanges, de ne plus être tout seul, et d'avoir différentes perspectives, différents points de vue. Voilà, pour le coup,
c'est pas très différent.
Mais... bon, on se connaît depuis longtemps, donc ça doit jouer aussi, mais quand même. Et je connais que j'ai quelques autres questions, et ça t'a répondu. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, qui a envie de changer de métier, de rentrer en accompagnement, l'hypnose, le coaching, ou qui se lance là maintenant ?
Peut-être les conseils bateaux, de regarder la réalité, de sortir de son rêve très très vite. Parce qu'il y a toujours un moment où on se prend le mur de la réalité dans le pif et il fait mal. Et de se rendre compte de ce que c'est que le métier d'entrepreneur. Alors je sais que toi tu vois pas ça comme... Enfin, je sais, t'avais entendu parler... que tu ne nous voyais pas comme des entrepreneurs parce qu'on n'a pas d'employés ou de choses comme ça. Mais je pense pour moi que c'est très important de se voir comme entrepreneur pour comprendre toutes les contraintes qui sont liées à ça, même sans... C'est encore pire, en effet, quand il y a des gens qu'on emploie, mais même sans ça, le temps qu'on va devoir passer à faire du marketing, de la com, comparé au temps où on va faire de la séance, au début, il est incroyable. Tu passes ta majorité de ton temps à te faire connaître plutôt qu'à faire le truc qui t'éclate, en fait. C'est-à-dire faire de la séance, aider des gens. Et à quel point c'est insécure, parce que même ceux qui réussissent... Parce que c'est vrai que tu disais la différence entre la réussite et l'externe, on voit souvent il faut X séances pour avoir réussi par mois. Donc si tu tournes à 60-80 séances, t'as réussi, tu vois. J'avais fait un mail là-dessus en me disant, pas du tout une question de réussite, parce que, mais bon. Mais c'est 60-80 séances pour y arriver, c'est hyper long, et c'est dur. Et émotionnellement, c'est dur. Il y a vraiment des hauts et des bas, et faut vraiment pas. Voilà, les gens qui réussissent en 2 mois à tout remplir, c'est les exceptions. Et c'est possible, parce qu'il y en a qui se bougent le cul comme des malades, mais la majorité, c'est pas ça. Ça veut pas dire que la majorité se plante, mais oui. Faut avoir le temps.
Il y en a pas beaucoup, hein, sur réussissant 2 mois.
Non, il y en a pas beaucoup, loin de là. Et puis, moi, ceux que j'ai vus qui ont réussi à en vivre en peu de temps, en 6 mois, les mecs, ils étaient... C'était des fous, quoi. Ils étaient tout le temps dehors en train de dire bah voilà, je fais de l'hypnose, d'aller voir tous les commerçants, de faire des ateliers, des machins, des trucs.
Un peu sexiste, hein.
Bah, c'est ce que je pense à un mec en particulier que j'ai vu, Damien, qui se reconnaîtra. Et lui, il m'a impressionné. Mais parce qu'il n'avait pas tous ces trucs de légitimité, de machin, de j'ai peur et tout. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a une différence mec-femme.
Ça, c'est sûr.
Donc, lui, il y allait comme un bourrin, quoi. Sa phrase, c'était « bah les couilles ». Ok, après, c'est vrai que quand après, tu penses souvent, comme ça...
ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, souvent de l'extérieur, tu dis « bah il y a 6 mois », sauf que tu vois pas les 15 ans d'expérience avant. Il y a des gens, bah, si tu as été dans certains métiers, que tu as vécu certains trucs...
C'est ça, lui était commercial avant, je crois.
Voilà, moi, tous ceux qui démarrent vite, tu leur dis « tu faisais quoi avant ?» Bah j'étais dans le marketing, dans le commerce, dans le machin, donc tout ce qui est site internet, bidule, communication, ils l'ont déjà, ils l'ont pas à apprendre. Quand tu sors de je sais pas où, que t'as zéro connaissance en com et en marketing, faut tout apprendre. Quoi. Je relève juste ça, mais tu dis des conseils bateaux, c'est pas des conseils bateaux, c'est pas des trucs qu'on entend partout. Hein.
Mais c'est les trucs, moi ça m'a flingué. Moi ça fait longtemps que j'en vis, mais ça fait peu de temps que je suis rentrée dans les trucs de marketing digitaux, parce que j'avais besoin d'apprendre tout le marketing digital en fait. Parce que coup de chance pour en vivre, en fait, je connaissais quelqu'un qui était ORL et qui m'a envoyé tout son cabinet ou presque, et ça m'a permis de faire une espèce de spécialisation dans les vertiges de Ménière. Il n'était pas du tout prévu, mais comme elle m'envoyait que ça, bah, j'ai pas, entre guillemets, eu le choix, et je trouvais ça intéressant, donc ok. Mais pour le digital, les conseils, ils flinguent. Le fait 10 000 balles en 3 mois, alors oui, tu les fais, mais il faut voir ce que ça te coûte, quoi. Enfin, moi, je les ai faits, ça m'a coûté ma boîte après, hein. Oser se lancer, j'ai fermé 6 mois plus tard, tu vois. J'ai dit, c'est bon, oser se fermer maintenant.
Faut pas faire ça.
Non, c'est un enfer. Ouais.
Chacun fait ses expériences, mais.
C'est bien d'y être passé, mais tu fais plus les erreurs après. Mais il faut les tenir, faut pas dire, bon, bah allez, salut. J'arrête.
Donc
tout,
le conseil, c'est arrêter de rêver, se reconnecter à la réalité, si je résume.
Ça, JP dit pareil, tu dis pareil.
J'avais écrit un article, tu avais 7 ou 8 ans. Là-dessus, c'est sur la réalité du métier, se connecter à ça. Les gens disent « je veux vivre de ma passion ». J'ai dit « attends, il y a une énorme différence ». Comme toi, tu fais du piano chez toi, tranquille, dans ton coin, dans ta grotte. Et en devenir prof de piano et en faire ton métier, c'est... Moi, à un moment donné, je faisais du golf pas trop mal. À un niveau où je peux commencer à me dire « tiens, je peux passer les trucs pour être... » pour éventuellement devenir prof un jour, puis je voyais les profs passer leur journée à donner des cours à des petites mamies de 70, 80 ans. Moi, je veux jouer. Je veux faire mon métier, et je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la réussite, la joie, etc. Bref. Après, il ne faut pas non plus dire « ouais, ça va être compliqué, c'est impossible, etc. » Mais
non,
c'est
pas
taf.
Impossible du tout. Ouais, c'est du tout impossible. Je ne pense pas que le marché soit fermé, c'est énormément de travail, vraiment énormément de travail. Et en plus, maintenant, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que moi je vois, qu'on est dans un moment un peu charnière où les choses changent en marketing. Les réseaux, notamment Facebook, et pourtant on m'a dit plein de fois Facebook c'est mort, je pense pas que Facebook soit mort, mais Facebook pour la com c'est compliqué maintenant. Vraiment compliqué. Parce que t'as de plus en plus de choses et parce que c'est de plus en plus axé sur la pub, quoi. Si tu fais pas de pub, c'est vraiment un réseau.
Bon, aujourd'hui, si on veut se faire connaître, c'est, si on veut se faire connaître. Pour moi, il y a le court terme et il y a le moyen et le long terme. Oui. À court terme, il n'y a que la pub.
Oui.
Et le réseau physique. C'est-à-dire aller voir des gens, discuter avec des gens, parler de ce qu'on fait, machin, faire des BNI, des machins, des trucs. Le but, c'est de rencontrer des gens, créer du lien. Ouais. C'est ce qui va le plus vite. La pub. Et à moyen long terme, c'est la communication sur le réseau. Mais la communication, je pense que déjà, le mot biaise les gens, tu vois. C'est plus, moi, je dis, l'idée, c'est de partager des trucs que t'apprends. Et les gens, ils cherchent à faire des trucs bien. Moi, ma philosophie, c'est tu te parles à toi il y a 2 ans ou toi il y a 5 ans.
Ouais.
C'est un peu ce que toi, t'as fait avec Oser se lancer, typiquement. Tu vois.
Je crois que je me parlais à moi tout de suite, tu vois.
Ouais, mais ça marche aussi. Tu vois, moi, j'écris des articles. L'année dernière, j'en écris pas mal. Il y en a la moitié, c'est à moi. C'est des rappels, c'est ça, je le note, c'est en fait c'est mes articles, c'est ma prise de notes, tu vois. Et donc ça va toucher des gens, ça va intéresser des gens, et je pense que c'est bien de documenter son évolution personnelle en public. Déjà, en plus il y a un effet qui est thérapeutique, et puis ça enlève le côté ah là là faut que j'écrive un truc machin, mais tout le monde l'a déjà dit. On s'en fout, quand tu parles de toi, de ce que tu vis, de comment t'évolues, de ce que t'apprends, c'est plus de la com, c'est du partage, quoi. Ça crée du lien, crée de l'authenticité à moyen
long terme. Mais il faut vraiment le voir à moyen terme et long terme, quoi, parce que c'est long.
Bon, parce que je dis
comme
aux gens,
un podcast ou un truc comme ça, quoi. C'est
une fois, je disais ça à une nana que j'avais en mentoring. Elle me dit, je veux faire du YouTube. Je dis, YouTube, c'est 1 an, au minimum une vidéo par semaine. L'idéal, c'est presque tous les jours, au moins 3 fois par semaine. Et dans 1 an, YouTube va peut-être commencer à te montrer dans les algorithmes. Sur Facebook, c'est pareil. Ce qui est normal du point de vue de l'algorithme. Tu vas faire 3 vidéos sur Internet, il ne va pas te mettre à te montrer, sinon on n'aurait que de la merde quand on ouvre YouTube, tu vois. Et donc, moi, ce que je recommande aux gens, c'est d'aller sur une chaîne YouTube qu'ils aiment bien et de regarder, d'aller d'inverser et de regarder les premières vidéos. En général, c'est une catastrophe. Moi, il y a un gars technique que j'aime bien qui s'appelle Gerald Undone, mais c'est un Américain, qui fait des vidéos techniques sur la vidéo, le son, etc. Tu regardes ses premières vidéos, t'as l'impression qu'il a 15 ans, l'éclairage est pourri, le son merdique, il fait des blagues de merde. Mais il les a laissées en public et ça fait 6 ans qu'il fait ça, il a 1 million d'abonnés.
Mais c'est. Ça fait des reportages géniaux là sur Squeezie et Orelsan.
Ouais.
C'est hyper intéressant ces reportages. Tu vois les premières vidéos de Squeezie, tu fais. Ouf, violente. Moi, j'avais regardé là il n'y a pas longtemps, j'ai regardé mes premiers articles sur ma page. De mon câble, j'ai regardé les premiers articles que j'écrivais, j'ai grincé des dents.
Ah, moi, ça me fait bondir de ma chaise.
J'ai fait, oh putain, mais comment tu pouvais écrire ça, merde. Mais je crois que c'est important de grincer des dents quand tu. C'est pas de moi, ça c'est pour le coup, c'était Mark Manson qui avait écrit un article là-dessus. C'est important de grincer des dents quand tu vois ton ancien toi, quoi. Parce que ça veut dire qu'à un moment, t'as grandi, t'as évolué, t'as changé.
Oui,
si t'es toujours d'accord avec toi-même d'il y a 9 ans, putain.
T'es inquiétant.
Ouais.
Et c'est pour ça que dans mes co-visions, les gens me disent « Ah, tu dis des trucs... » Oui, il y a 5 ans et demi d'archives, je crois, et je laisse volontairement certains trucs avec lesquels je ne suis pas forcément encore d'accord aujourd'hui, voire pas du tout, parce que c'est important de voir le chemin, l'évolution, le parcours, le changement.
Ce qui n'est pas facile des fois, parce que, tu sais, avec un truc un peu, entre guillemets, public, il y a une espèce de biais de cohérence, où on veut être cohérent avec nous-mêmes, tu vois. Donc, de voir que tu t'es dit de la merde il y a 9 ans, moi, j'ai très envie d'effacer ces articles-là. Vraiment.
Ouais,
je les laisse parce que c'est marrant, mais...
Ça dépend où tu places ton seuil de cohérence. Si justement, la cohérence, c'est dans on évolue, on change et tu traverses, tu passes quand même les trucs, même si c'est naze, tu le fais quand même. Bah, c'est cohérent parce que tu laisses les trucs que toi, t'as fait quand même. Je pense que c'est un bon exemple. Donc, je sais plus qui disait... Les entrepreneurs qui réussissent. Après, juste sur ça, pour moi, l'entrepreneur, c'est j'ai une entreprise, j'ai des employés. Mais on est entrepreneur au sens où on est indépendant. Il faut faire du marketing. C'est juste un décalage de seuil, de charge mentale que tu as quand tu es entrepreneur, que tu n'as pas forcément quand tu es indépendant. Ce que tu disais, quand tu as des employés, des gens, une équipe à gérer, une société, une entreprise, c'est pas tout à fait la même chose. Non, peu importe. c'est la tolérance à la souffrance. Ouais.
C'est ça. C'est exactement ça. Capacité de tolérer la souffrance.
Tous les gens qui réussissent, entre guillemets, ils ont ça.
Ouais.
Ils ont un truc qui fuit émotionnellement fort. Je crois que c'est Alex Hormozic qui parlait de ça. Marketing américain, qui est vachement sympa. Et il disait, il y a les gens qui réussissent très haut niveau, ils ont trois critères. Le premier, c'est un truc, un trauma souvent d'enfance qu'il fuit. Enfin, c'est je veux pas ressouffrir comme ça. Un truc. Tony Robbins, il disait ça, il dit j'ai tellement souffert quand j'étais gamin que je veux pas que ça se reproduise. Enfin, c'est un truc qu'il fuit beaucoup. Ils ont un sentiment d'infériorité important qu'ils cherchent à compenser. Ça, c'est, je me sens tellement nul, je suis tellement. Me sens pas bien et mieux que les autres, donc je vais chercher à compenser en faisant des choses pour montrer. Moi, typiquement, j'ai toujours eu, c'est mon type plutôt énergique, mais si je ne sais pas quelque chose, je peux pas être aimé. Et donc, j'ai un truc autour de l'expertise, du savoir, de lire beaucoup, machin, tout. Mais c'est un truc que je veux garder parce que c'est ce qui fait que je bosse. Et ils ont un troisième truc que moi j'ai moins, c'est le focus au sens. Cette capacité à gérer des distractions. Pas dans tous les sens. Donc, ils tolèrent la frustration de regarder Netflix au lieu de travailler. Tu vois. Moi, je ne suis pas très bon. Pas ça. Et donc, c'est intéressant comme critère.
C'est très intéressant. Ce sera plus la frustration de projet, c'est-à-dire de te dire non, je ne fais pas cet atelier, ou non, je ne fais pas cette formation, ou non, je ne crée pas ce truc, ou non, je ne vois plus ce client, pour être focus sur un truc. Tu vois. Ça, c'est dur. De refuser des projets. Mais bon. En effet, je pense que de toute façon, à un moment, il faut être focus. Hein.
Ouais. C'est
pas trop de.
Bon, j'ai plus le nom anglais, enfin, je retrouverai. C'est intéressant parce que c'est des structures, avec donc des mécanismes. Et à la fois, on apprend qu'ils ont un grand objectif, ces gars-là, pour compenser ce sentiment d'infériorité. Donc c'est un truc d'acceptation, t'es ok, plutôt que d'essayer de m'accepter, de m'aimer comme je suis, je fais de mes faiblesses et de mes traumas et de mes émotions un levier d'évolution personnelle. Pas mal, comme idée. Il y a une question que j'aime bien qui pose Tim Ferriss dans son podcast, je sais pas si tu connais. Il dit si tu pouvais avoir un gigantesque panneau d'affichage n'importe où avec n'importe quoi dessus, que dirait-il et pourquoi?
Tu couperas le long blanc qui va être là. Un gigantesque panneau d'affichage. J'ai aucune idée de ce qu'il dirait, mais il dirait pas un truc par rapport à moi. Ce serait pas ma photo avec « Venez prendre un coaching » ou une vente de formation. Je pense que ce serait un truc... je sais pas, pour aider une asso ou un truc comme ça. Ça fait hyper altruisme, mais peut-être un truc en rapport avec le féminisme. Pour l'instant, c'est vraiment un truc qui me porte et qui me fait du bien. Donc, elle est hyper dure, cette question. Mais ce serait clairement pas un truc avec, genre, ma gueule dessus. Ça, ce serait horrible. Ou si, je mettrais François dessus, tu sais. Je mettrais François et ses spectacles, ou un truc comme ça, tu vois. Je ferais la pub de mon mec.
Et tu fais ça, ouais.
Ouais, je pense, ouais. Ça, ou un truc de... Si je trouvais vraiment une bonne idée sur le féminisme, ou sur une asso de femmes battues, ou de choses comme ça, tu vois, de... Je mettrais un truc très en avant là-dessus. Ça, c'est un autre truc que les gens savent moins chez moi. C'est que j'ai un truc féministe énorme et que j'ai vraiment du mal à assumer en réseau. Sur les réseaux. Je trouve ça hyper dur. Assumer. Tu vois, j'ai même le mot assumer va pas. Mais à montrer.
On le voit un peu ici et là dans certains commentaires.
On le voit ici et là dans certains commentaires, mais c'est très rare et ça me demande une énergie. Moi, ça me prend une semaine pour m'en remettre. Tu vois, j'étais malade après. Il y a plein de choses qui se sont enchaînées, mais ça me demande une énergie de malade de poser des commentaires ou de dire aux gens « je suis pas d'accord avec ça ». Et heureusement, l'énergie de la colère, tu vois, que j'ai encore beaucoup. Mais sans ça, les discussions que je peux avoir avec des gens autour de moi, je m'éteins très très vite, tu vois.
Ouais.
Dès que je suis confronté à la discussion, tu vois.
Moi, c'est des sujets qui m'intéressent aussi. Alors, moi, je suis un homme, c'est différent.
Toi.
Mais c'est des trucs dont je peux parler pendant des heures. Il y a plein de trucs avec lesquels je suis d'accord, plein d'autres avec lesquels je ne suis pas d'accord. Et c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et si j'avais peur de rien, probablement j'aurais un truc, une chaîne YouTube, un machin qui parlerait de ça. Mais il y a plein de mecs qui m'énervent, il y a plein de nanas qui m'énervent, et tu trouves un peu ce... cette lutte homme-femme, je la trouve complètement débile. Je préfère parler de masculin, de féminin, mais bon, peu importe. On prend cette idée, il y a des sujets, il y a des mecs, je sais, il y a des gens, ils ont des chaînes YouTube, je sais pas comment ils font. Ils doivent avoir des milliards de haters, ils ont aussi des gens qui les aiment beaucoup. Hein, mais
Ouais.
c'est cette charge de gérer les critiques, les commentaires, les débats,
C'est
les
ouais.
machins, c'est fou.
C'est en tout cas pour moi, c'est ce qui est le plus dur. Enfin, non, pas le plus dur parce qu'il y a, y a tout le fait, il y a plein de choses à côté difficiles, mais dans les réseaux sociaux, c'est vraiment difficile. Mais il y a des gens qui le vivent. Je reparle de François parce que je vis avec lui au quotidien, mais lui, c'est pas que ça lui passe au-dessus, ça le touche, mais il passe très vite à autre chose. Que moi, je peux ressasser et angoisser dessus pendant des jours, quoi.
Masculin, ça. Masculin, il passe vite à autre chose.
Ouais, puis l'habitude, lui, il a été coach sportif, donc il avait la presse à gérer, les joueurs, les machins, les trucs, donc comme il était à un moyen haut niveau plutôt, mais donc il a l'habitude de ça. Il me dit au début, c'était comme toi, c'était hyper dur de gérer le truc, quoi, mais à un moment, espèce de truc qui fait allez vous faire foutre, quoi.
Ah, c'est la tolérance à la critique, hein. Il y a pas
C'est
de secret,
ça.
c'est
Et moi,
la confiance,
je suis pas
c'est
tolérante à la critique.
le volume fois le temps. Donc
Ouais.
si tu prends des critiques pendant longtemps et pendant des années, après,
Ah
tu t'en
ben
fous.
ouais.
Et donc les premières sont plus difficiles. Et c'est un des paramètres, parce qu'un gars disait ça, je sais plus où, j'avais vu ça dans un bouquin, et dans une étude, mais j'ai pas les références, c'est dommage. Il disait que souvent, bah, dans les différences entre les garçons et les filles, souvent, c'est que dans l'éducation, les garçons sont souvent... ils ont plus d'expérience sur la critique, le jugement. Parce qu'on va leur dire plus souvent, attends, machin, on est plus dans la compétition. Et souvent, moi j'ai fait une école d'ingénieur, on était 200 mecs, il y avait 3 nanas, on se vanne toute la journée. Si t'es pas tolérant à la vanne, c'est mort. Et donc pendant 5 ans, tu te prends des vannes 8 heures par jour. Et non-stop. Et le féminin est moins. Comme ça, on voit bien, tu vas au parc 5 minutes. Je dis féminin parce que ça peut être un garçon qui vit ça aussi, tu vois. Mais c'est le. En plus, l'attention à la pauvre petite fille fragile, et c'est là qu'il y a plein de biais sociaux, et donc il y a moins de tolérance à la critique et au jugement, et t'arrives bah, dans la vraie vie. Les hommes ont plus, c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de trucs qui sont plus faciles pour les hommes, qui viennent des systèmes éducatifs, où justement il y a moins ce... Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire,
Ah
mais
oui, si.
c'est
Oui, je
clairement un
pense qu'il y a,
problème
il y a...
éducatif. Moi j'essaie d'éduquer
Complètement.
les enfants, et je vois bien, les garçons, ils prennent un peu plus dans la vanne, mon fils comme ça, et les filles, j'essaie de les habitués au second, troisième degré, critique, machin, pour justement qu'elles aient elles apprennent cette tolérance à la critique, à la souffrance au regard de l'autre. Et Myril, avant, elle était très timide, c'est la deuxième. Maintenant, je dis, bah, tu fais ça. Et puis, oh, bah, je m'en fous, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Yes!
Ça,
Donc,
c'est bien.
c'est le volume fois le temps, développer les compétences. Bon, bref, on
C'est
est un peu
ça.
dérivé, mais comme c'est des sujets qui nous intéressent tous les deux. En plus, le problème des réseaux sociaux, surtout quand c'est écrit, c'est t'as pas le ton, t'as pas la
T'as
discussion,
pas le
tu
ton, t'as pas la
projettes des
discussion,
trucs sur les gens.
puis les gens s'enflamment. Donc,
Puis moi, des fois, je suis sur mes chiottes, je réponds vite, alors qu'il
Mais c'est
faudrait
ça, en
quatre
fait.
pages
Tu
pour dire ce que je
C'est ça.
pense. Et donc, puis après, tu es coupé. Enfin, bref, les réseaux sociaux, c'est un peu
C'est les
barbant.
réseaux sociaux, quoi. Ce serait pareil en podcast, hein. Tu me dis, vas-y, parle de féminisme en podcast, tu lui dis, oh, non, je n'ai pas encore assez cherché dessus, je connais pas encore assez. Dans trois
Ouais, il y a
ans,
trop
on
de.
verra.
Et voilà, c'est une posture aussi de vouloir apprendre de quelque chose et d'échanger plutôt que de donner des leçons à la Stéphane, je ne sais plus comment il s'appelle sur sa chaîne YouTube là. Stéphane Edouard. Tu ne connais
Non, je passe bonheur.
Merci.
Ça
Regarde
va faire plaisir,
quelques-unes de sa
je
vidéo, je pense que ça va te faire plaisir. Ouais.
Ah,
Bref.
t'es kiffé.
Et puis il a des démos de coaching au téléphone. Voilà.
Oh là là, tout ce qu'on
Bon,
adore.
si Stéphane Edouard, tu nous écoutes.
Bah, va te faire foutre.
Non, bah, au
Tu
début,
comprends?
il y avait des trucs pas trop mal. Voilà, c'est devenu un truc, une catastrophe. Bref, on arrive à la fin. On peut dire un truc pour terminer?
Non, merci de m'avoir
Bon,
invité.
merci. Tu nous joues
C'était
un
un
petit
secret
morceau de
challenge.
piano? Non?
Non, il est en bas, c'est dommage, c'est con, je suis
Ah
à
merde
l'étage.
alors.
Il est
Bah,
juste en dessous de moi. Tu vois.
c'est pas de chance.
Mais.
Bah, c'est super cool de t'avoir eu.
Ouais.
Et merci à tous de nous avoir écoutés. Je mettrai les liens vers ce que fait Anna, son podcast et ses formations en description. Et des bisous à tous.
et à la prochaine. Merci Anna.
Merci, ciao.